Le regard à l'entité plus rapidement, de vous laisser la possibilité d'intervenir et de poser quelques questions avant de reprendre les interventions. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'on pourrait passer les micros?
Merci beaucoup. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a comme une fuite en avant, disons, de ce que l'on appelle peut-être trop facilement ou trop brièvement l'Union européenne. En même temps, il est vrai que dans un contexte post-Lisbonne, on devrait aussi s'intéresser à la voix du Parlement européen. Or, bon, le Parlement européen parle, essaye de se faire entendre, mais c'est encore très difficile, quoi. Il semble que ça... justement que son pouvoir de codécision ne soit pas vraiment pris au sérieux. Et est-ce que tu ne crois pas justement qu'il y a comme une sorte de conflit inavouable, peut-être même, entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, ce qui fait que l'on se retrouve avec un discours un peu, je dirais, cacophonique sur les questions migratoires, et la seule solution est en fait cette fuite en avant que tu as dénoncée, à juste titre, bien évidemment, qui est celle du sécuritaire, des questions à très court terme, d'affirmations qui n'ont aucune preuve scientifique véritablement. Voilà. Merci.
Je serais intéressé de connaître la position de Philippe de Bruyckeff sur les accords, sur les partenariats conclus avec certains pays d'Afrique du Nord. Moi, je trouve leur contenu extrêmement limité, mais en lien avec les discussions précédentes, je m'en connais son
entier. Une autre question, peut-être?
Merci. Moi, j'aimerais bien savoir si on peut trouver dans tout ce que vous avez dit donc des sources, des bases, et notamment des bases juridiques, pour... les projets, par exemple, de financer des centres d'accueil dans les pays tiers, ou le fait de soutenir d'une autre manière, c'est-à-dire que, est-ce que ce n'est que par la possibilité du financement, puisque ça c'est prévu et donc on utilise effectivement, et là il n'y a rien de caché, il y a une transparence là-dessus, le financement de l'Union européenne de centres d'accueil. Ou est-ce qu'on peut trouver d'autres formes de coopération en développement, plus opérationnelles?
Merci. Alors, je vais répondre très vite, même si les questions sont relativement larges. Alors, c'est vrai que le Parlement européen, pour l'instant, a quelques difficultés à se faire entendre, même s'il offre une caisse de résonance intéressante. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille par exemple d'écouter le discours d'Angela Merkel qu'elle a fait en plénière il y a 2 jours, et qui est, je dirais, d'un point de vue moral et sur le fond absolument remarquable, et qui malheureusement n'apporte pas beaucoup, ou plus beaucoup à ce stade, de propositions. Mais on verra ce qu'elle pourra tenter de faire dans le domaine de la solidarité. Alors aussi, je dois vraiment aller très rapidement, je pense aussi que parfois quand même, quand on parle du Parlement européen, il y a une confusion des rôles que le Parlement européen nourrit parfois lui-même. Parce que le Parlement européen est un Parlement qui est en quête de pouvoir permanente. Il veut parfois conquérir au niveau européen des pouvoirs que les parlements n'ont pas au niveau national, notamment dans le cadre de la mise en œuvre. Donc, je crois qu'il faut être nuancé de ce point de vue-là. Ceci étant dit, ce qui me frappe d'un point de vue institutionnel, c'est qu'on parle d'une crise de l'Union européenne, parce qu'on fait un raccourci, mais ce n'est pas une crise de l'Union européenne. C'est une crise qui touche beaucoup plus profondément. La racine de la crise, ce sont les États membres de l'Union européenne. Les institutions communautaires, certes, la Commission n'a pas brillé dans sa rapidité de réaction, et de rédaction non plus d'ailleurs, Mais c'est vraiment les États membres qui posent problème et qui tentent encore de revenir à des méthodes intergouvernementales. Je vous invite par exemple à consulter dans le domaine de la relocalisation les décisions qui ont été adoptées, et on voit que dans la première décision, ils sont passés par une résolution des ministres réunis en Conseil, entendez, non pas le Conseil mais l'intergouvernemental, alors qu'ils ont dû renoncer à cette méthode qu'ils soi-disant ils préféraient, avec la seconde décision, parce qu'évidemment il y avait le blocage pour décider selon la méthode du consensus en vigueur dans l'intergouvernemental de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Roumanie. Et par ailleurs, je pense aussi qu'il y a une autre chose qui est absolument dramatique dans le fonctionnement de l'Union européenne et qui, je pense, devrait aussi faire réfléchir. C'est la dramatisation permanente de la crise et ce feuilleton médiatique de réunion en réunion qui, en général, échoue. Ce qui, je pense, crée de l'angoisse pour les personnes qui voient les médias et ne comprennent pas bien ces débats et notamment leurs variantes institutionnelles. La manière dont l'Union européenne communique dans ce domaine est encore plus catastrophique que ce qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas. Partenariat pour la mobilité avec l'Afrique du Nord. Pour l'instant, on en a deux. Le Maroc d'un côté, la Tunisie de l'autre. Effectivement, quand on les consulte, on ne voit pas grand-chose de nouveau. On pourrait ouvrir un débat d'ailleurs sur la question de savoir comment se fait-il que le Maroc a accepté de signer le partenariat de la mobilité, parce qu'en fait, les Marocains, je pense, n'ont pas obtenu grand-chose, si ce n'est des promesses en termes de facilitation de visa. Est-ce que c'est un véritable changement d'attitude? Vont-ils signer l'accord de réadmission qu'ils se sont engagés à signer, mais qu'ils ne semblent néanmoins pas prêts à signer? L'accord, ces partenariats, pour le reste, j'ai écrit un petit article dans un livre qui se trouve sur la table là-bas, si vous êtes intéressé, où j'ai analysé le partenariat pour la mobilité avec le Maroc. Alors, le partenariat pour la Tunisie, à mon avis, est encore plus intéressant, parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment été conclu dans la précipitation. C'est un copier-coller, à peu près, du partenariat avec le Maroc et la Moldavie, mais surtout le Maroc. Les négociateurs, lorsqu'ils ont rendu public le texte, n'ont même pas été capables de fournir en annexe la liste des projets censés concrétiser le partenariat. C'est un peu comme si, à l'époque, on faisait le bilan de l'approche globale, il fallait absolument engranger quelque chose pour montrer qu'on avait des résultats. Et il est vrai que s'il n'y avait pas eu le partenariat pour la mobilité avec le Maroc, on pouvait considérer que l'approche globale pour la mobilité était un échec, à tout le moins, en direction du Sud. Alors, pour ce qui concerne les financements des centres d'accueil, on l'a déjà fait, on va le faire de plus en plus. En Turquie, dans le plan d'action qui a été développé, on trouve aussi sur Internet, si ça vous intéresse, on trouve plus exactement le draft que la Commission européenne a remis à Erdogan à l'occasion de sa visite à Bruxelles. Il faudra voir, évidemment, ce serait intéressant de le comparer avec la version finale lorsque un accord sera trouvé. Mais là, on annonce le financement de 6 centres d'accueil pour les réfugiés. Alors, c'est un vaste débat pour le reste. Je n'ai pas l'impression que ce qu'on appelle véritablement l'externalisation, c'est-à-dire le traitement des demandes d'asile en dehors de l'Union européenne, voire même des hotspots qui se limiteraient à l'identification des personnes, soit possible, parce que les pays tiers n'ont pas l'air d'être prêts à l'accepter, et aussi parce que si l'Union européenne voulait le faire, ça serait quand même, d'un point de vue politique et juridique, extrêmement compliqué, extrêmement intéressant, mais aussi dangereux, parce que je crois que ça rouvrirait le débat sur la juridiction de l'Union européenne. Parce qu'au fond, tout le débat aujourd'hui que nous avons sur la possibilité de venir demander l'asile dans l'Union européenne, c'est un débat sur la portée du droit d'asile ou du droit de chercher asile. Mais on peut, les États européens prétendent en général qu'un demandeur d'asile ne relève pas de la juridiction européenne parce qu'il n'atteint pas le territoire européen. Et la seule manière pour qu'il relève de la juridiction européenne d'un point de vue juridique, c'est au fond qu'il tombe sous le contrôle de l'Union européenne. Alors si on externalisait des centres avec des autorités européennes, des agences européennes qui véritablement travailleraient sur le territoire d'un autre État membre, là, en ce moment-là, ces personnes se trouveraient sous la juridiction européenne et il serait très clair que toutes les obligations en termes de droits de l'homme et notamment la Charte des droits fondamentaux s'appliqueraient. Donc, je ne suis pas certain que les gouvernements mesurent bien les avantages, mais aussi les inconvénients pour eux de cette loi.